Les voix du livre. Une émission proposée par la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour à tous. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, Hélène du Cyprès Jean de la Lune ne pourra pas être avec nous physiquement et elle le regrette bien, mais elle l'est en pensée. Nous la saluons donc de loin. Mais nous accueillons aujourd'hui Vincent Bernard.
Bonjour Claire.
Bonjour Vincent, président du Festival littéraire Tandem et comédien-lecteur. Et en duplex, Arnaud Catherine, le conseiller Bonjour. Littéraire du Festival, qui nous rejoint par téléphone. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission, qui commence, comme d'habitude, par les coups de cœur. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est une surprise, puisque ce seront ceux d'Arnaud Catherine, qui est en ce moment à Manosque pour le Festival des Correspondances, qui, je le rappelle, se déroule en ce moment du 25 au 29 septembre. Alors donc, Arnaud, quel est pour vous le titre incontournable de la rentrée, ou peut-être y en a-t-il plusieurs ?
Ah oui, je suis ravi que vous puissiez, que je puisse en citer plusieurs, parce que c'est extrêmement difficile quand même de choisir un livre. Il y a un certain nombre de livres qui m'ont beaucoup plu dans cette rentrée, comme à chaque fois d'ailleurs. Je citerai un premier roman, j'aime bien commencer par les jeunes, place aux jeunes. Un premier roman chez Flammarion, de Victor Gestin, qui s'appelle La Chaleur. C'est un roman tout à fait impressionnant. D'ailleurs, je suis loin d'être le seul à l'avoir remarqué. Il est sur trois listes de prix, c'est vous dire.
Ah oui, en effet.
Le Renaudot, le Femina, le Médicis. Donc c'est un premier roman assez impressionnant. L'atmosphère très prenante. On est dans un camping sur la côte atlantique. Et ça commence comme ça. C'est un adolescent qui a eu un mal infini à jouer le jeu pendant cet été au camping. Il a essayé de participer aux fêtes. Il s'est forcé à la joie, en fait. Et il n'a pas réussi à passer vacances exaltantes. Et donc, il s'extrait, en fait, il s'extrait toujours des groupes. Et une nuit, il tombe sur un type, un adolescent qu'il a croisé 20 et 20 fois pendant ses vacances, qui est ivre et qui est en train de s'étrangler avec les cordes d'une balançoire.
Oula, mais c'est terrible, oui.
Et comme dans L'étranger de Camus, vous vous souvenez, où il y a ce geste totalement gratuit.
Oui.
Et bien là, il va le regarder mourir. Il va rien faire. Ouf. Et il va aller l'enterrer sur la plage.
Ah oui, non, parce
que le roman commence comme ça.
On s'y attend pas.
Hein. Et on va passer la dernière journée de vacances avec ce jeune garçon qui porte une culpabilité absolument immense. Et on va attendre avec lui pendant cette très longue dernière journée de vacances ce qui va pouvoir arriver. Va-t-il parler ? Va-t-il se rendre ? Et de quelle nature est son geste, au fond ? Parce qu'il ne l'a pas tué, mais il ne lui a pas porté secours. Bon, donc vous voyez, c'est vraiment le premier roman d'un garçon de 23 ans, c'est-à-dire qui a un geste très culotté, d'un point de vue romanesque.
Ouais, ça, c'est sûr.
Ailleurs, c'est un roman extrêmement fort d'un point de vue atmosphérique. La Pinède est là, les rouleaux sont là, les dunes sont là, la moiteur des corps. Et puis cette chose très très bien rendue dans le livre, qui est comment est-ce que les garçons approchent les filles, comment est-ce que les filles approchent les garçons, l'attente de la première fois qui fait partie de l'adolescence. Voilà. C'est un très très beau premier roman.
Ça a l'air très très puissant surtout, hein.
Ouais, et avec une économie de moyens tout à fait impressionnante. L'autre livre peut-être que j'aimerais citer, c'est une romancière confirmée qui est venue à Nevers. Déjà, c'est Marie Dariussec.
Ah oui.
Qui publie son livre La mère à l'envers chez P.O.L.
Oui, tout à fait.
C'est un livre, quand on m'en a parlé, j'aime énormément cette romancière, mais c'est vrai que quand on m'en a parlé, j'ai un peu frémi pendant quelques secondes, puisqu'on m'a dit, et c'était une parole un peu trop sommaire, on m'a dit c'est sur les migrants. Alors, je me suis dit, oulala, comment s'emparer de cette réalité qui, comme le dit Marie Dariussec, est voilà, un des enjeux majeurs de notre monde contemporain.
Certes.
Et alors j'ai été complètement cueilli et surpris, parce que bien sûr, les migrants apparaissent dans ce livre, puisque c'est l'histoire d'une femme qui part en croisière avec ses deux enfants, elle se demande si elle va pas quitter son mari, parce que vraiment leur couple bat de l'aile, et donc elle se paye cette croisière, et ce gros paquebot, bien vulgaire comme vous pouvez l'imaginer, croise des migrants, et les migrants sont recueillis. et elle croise le visage d'un adolescent, Younes, et elle veut absolument faire quelque chose pour lui. Elle ne sait pas quoi faire pour lui. Et elle va voler le portable de son fils et elle va le donner aux migrants. Donc, vous imaginez que le lendemain, c'est le drame, parce qu'un adolescent sans portable, c'est plus un adolescent, c'est un être mort. Et parce qu'elle a donné ce portable à ce migrant, elle va pouvoir savoir où il est. Et lui, il va pouvoir, à un moment donné, l'appeler au secours. Donc, c'est vraiment l'histoire, c'est une comédie. En tout cas, la première partie du livre est vraiment... Oui, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle fait les choses maladroitement, mais elle veut les faire quand même. Mais surtout, la grande, grande force, elle finira par faire quelque chose pour ce migrant. Mais la grande force de ce livre, c'est que ça incarne dans l'ordinaire de nos vies cette question des migrants qui est malheureusement et trop souvent quelque chose qu'on voit dans les JT, une réalité assez abstraite.
Oui, puis assez lointaine surtout.
Ça interroge la question du courage. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui ne sommes pas des héros? D'ailleurs, le quatrième de couverture du livre annonce bien la couleur. Si je me souviens bien, ça commence par « Rose est une héroïne, mais seulement certains jours ».
Oui, oui.
Voilà. Et c'est un peu notre histoire à tous. Ou en tout cas, quand on se plaît à vouloir faire quelque chose pour quelqu'un, on est héroïque que par intermittence. Sinon, on est un héros de Homère.
Donc là, c'est une comédie héroïque, d'une certaine manière.
Une comédie héroïque, mais un héroïsme à hauteur humaine, à hauteur du contemporain, de notre modernité. Et puis, par ailleurs, parce que Marie Dariussec a passé ses trois dernières années entre Calais, l'Afrique. Enfin, c'est un sujet qu'elle connaît absolument sur le bout des doigts. Donc, elle affronte quand même, sous les dehors de cette comédie et de cette femme malhabile avec son héroïsme, elle affronte cette question des flux migratoires, des réfugiés climatiques, économiques. Et c'est un roman extrêmement fort et qui a pas mal de succès en cette rentrée. J'en suis heureux parce que j'ai presque envie de dire qu'il est populaire. C'est-à-dire qu'il peut vraiment plaire à un très large public, il est très facile d'accès. Et voilà, et il parle de quelque chose qui est majeur dans notre actualité. Voilà.
Oui, alors moi je confirme parce que je l'ai lu et je dois dire que j'ai été aussi séduite par, comme toujours j'avoue, ma faiblesse, je suis séduite par l'écriture de Marie Dariussec le sujet est plutôt lourd, mais enfin je veux dire c'est pas facile de parler de ce genre de sujet, mais elle le fait comme elle sait le faire avec alors effectivement oui c'est vrai, moi j'ai aussi trouvé ce côté comique si je puis dire, mais c'est un choix fort. Est-ce que vous avez un troisième roman à sélectionner pour cette rentrée littéraire?
Je vous citerai un roman très savoureux qui est Propriété privée de Julia Deck aux éditions de Minuit. C'est une sorte de Chabrol chez les bobos.
Ah oui?
Féroce.
Ça s'annonce fort, je ne connais pas.
C'est saignant. C'est tout à fait jubilatoire. C'est un exutoire pour toutes nos pulsions les pires. C'est l'histoire d'un couple de Parisiens qui, comme beaucoup, en ont ras-le-bol de vivre dans cette ville trop dense, trop violente. Ils sont animés par des désirs légitimement écologiques et tout ça. Bon, et ils s'installent dans une proche banlieue très verdoyante, petite ruelle formidable, mignonne. Enfin, voilà. Il y a là un voisinage qui a l'air charmant. Bon,
on sent le drame
pointé.
Une jolie
vie commence. Et puis, de nouveaux voisins arrivent qui ont l'air extrêmement bizarres. Et là, le drame commence. Et je vous dis rien de plus. En tout cas, je peux vous dire que c'est féroce. On se marre. Et ouais, ça m'a fait penser à du Chabrol aujourd'hui.
Et ça a l'air d'être assez... Oui, je connaissais pas du tout. J'en ai même pas entendu parler. Mais ça me met l'eau à la bouche.
Alors, on peut un peu anticiper sur le sujet qui suivra. Je me trompe pas. Arnaud Julia Deck devrait venir à Tandem.
Mais Julia Deck devra.
Devra venir.
Attendez. Manu Militari.
Elle nous a dit oui.
Donc voilà, c'est bien ça. Donc, oui.
Elle va venir. Là, on est en train de réfléchir justement à son tandem.
À son tandem,
elle est en train de réfléchir à l'artiste qu'elle aimerait voir l'accompagner à Nevers. Mais oui, Julia Deck sera là et je suis ravi que le public de Nevers puisse découvrir cette romancière qui est vraiment très talentueuse et elle aussi très culottée.
Ah, ça promet. Mmh. Eh ben, écoutez, nous aurons plus d'informations tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission sur le programme qui s'annonce assez haut en couleur, je crois, et en émotion surtout. Alors, merci beaucoup pour ces coups de cœur de la rentrée, parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver tellement il y a de livres. Tous les prix préparent leur sélection, et je voulais juste vous inviter tous à jeter un petit coup d'œil sur aussi le prix mémorable du réseau des librairies initiales qui propose des auteurs qui sortent bien des sentiers battus, donc un regard un petit peu neuf sur des auteurs étrangers notamment. Alors, puisque nous sommes dans la liberté d'écriture, nous allons passer au morceau que vous avez choisi, Vincent, un premier morceau de musique qui est un petit peu revendicatif. Duquel s'agit-il ?
On parle de Philippe Catherine.
Oui.
Et une chanson qui s'appelle Liberté.
Liberté. Donc, nous allons partir pour la liberté. Eh bien, c'était donc Liberté par Philippe Catherine, toujours aussi libre, toujours aussi déjanté. C'est ce qu'on aime chez lui. Alors, Vincent, comment avez-vous choisi ce chanteur ?
Alors, ce chanteur, et puis aussi, pourquoi pas, cette chanson. Alors, ce chanteur, Philippe Catherine, c'est très simple, parce que j'ai la joie, le grand plaisir d'annoncer que Philippe Catherine sera présent au prochain Festival Tandem.
C'est un scoop.
Oui.
C'est un scoop, les voix du livre. Personne ne le savait. Merci de nous l'avoir réservé. Philippe Catherine sera à Tandem. C'est une excellente nouvelle.
Ah oui, on est ravis. Oui, on est ravis. On attend avec une certaine impatience la prestation qui va nous livrer. Ça se passera au théâtre municipal de Nevers, en compagnie de Philippe Evenot, qui est un cinéaste. Alors, il a déjà commis quelque chose avec lui pendant le Salon du Livre au printemps dernier. Donc, j'imagine que ce sera quelque chose d'approchant, une sorte de conférence commentée sur fond de vidéo, sur des sujets divers, peut-être l'amour, la mort. Mais je ne garantis rien, parce qu'avec Philippe Catherine, qu'est-ce qu'on peut garantir, sinon le fait qu'il sera présent.
Voilà. C'est le plus important.
Ah oui.
Le reste, c'est de la liberté.
Oui.
Alors, nous allons retourner dans le présent local avec une belle actualité du livre ce mois-ci. Et tout d'abord, un zoom sur la venue à la librairie Jean de la Lune de Jérôme Perra, illustrateur, et d'Adèle Tariel, journaliste et autrice jeunesse. C'était le 14 septembre. Ils venaient présenter deux de leurs dernières créations que je vous conseille vivement. C'est poétique, mais aussi engagé pour la préservation des insectes et des relations humaines aussi, qui ont besoin d'être préservées. Donc, un très beau programme. Bonjour, nous sommes à Jean de la Lune et nous avons le plaisir d'interviewer aujourd'hui Jérôme Perra,
qui est illustrateur et enseignant à l'école d'art plastique de Colmar, donc qui vient de loin. Bonjour.
Bonjour.
Et Adèle Tariel, journaliste en presse jeunesse pour Mon Quotidien et Le Petit Quotidien, et qui est autrice d'albums jeunesse. Alors aujourd'hui, vous êtes venue pour dédicacer deux de vos ouvrages. Vous en avez écrit beaucoup plus, hein, mais les deux derniers qui sont publiés aux éditions du Père Fouettard sont donc Cargo, une histoire eh bien, de cargo, avec aussi un goéland, mais on va en parler après. Et alors, rien à voir, Carnivore. Alors, le titre est un petit peu fort, c'est qui se déroule dans le monde des insectes. Donc, les deux aux éditions du Père Fouettard et qui sont présentés aujourd'hui à la librairie Jean de la Lune. Alors, d'abord, moi j'aimerais savoir, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a un livre jeunesse, un album jeunesse sur un bateau, sur un porte-container, comment est né le projet de Cargo ?
Alors, l'idée de cet album est née à partir d'une rencontre d'un ami, en fait, qui a été capitaine de cargo pendant de longues années, qui est devenu pilote maintenant, qui travaille au port de Marseille. Et en fait, on a passé pas mal de temps avec lui et il nous a beaucoup raconté son expérience sur le cargo. Et ce qui m'a notamment, moi, marqué, c'est déjà toutes ces sensations qu'il avait en mer, mais beaucoup aussi le lien qu'il avait avec ses enfants, parce que du coup, comme il partait de longues périodes, en général 2-3 mois, il y avait quand même cette relation à la famille qui était un peu compliqué, il était absent pendant longtemps, et voilà. Et je trouvais que ça faisait écho à pas mal d'histoires dans pas mal de familles où il y a un des parents qui est absent. Voilà, donc ça c'était vraiment un sujet super intéressant. Et le côté graphique pour les illustrations du cargo qu'on trouvait très beau, des lignes assez surprenantes, des lumières dans la mer, etc. On s'est dit que c'était un super sujet pour un album jeunesse. Et c'est vrai que, a priori, le monde de la mer et des bateaux présenté sous cet angle-là, ça n'a pas été beaucoup fait dans les albums jeunesse.
C'est très original, hein. Et en plus, bon, on va pas dévoiler l'intrigue, mais il y a quand même une histoire de goéland et il y a des points de vue, il y a des surprises aussi.
Ouais, tout à fait.
On visite un petit peu le cargo. Alors justement, ça, c'est quand même un défi technique, ce cargo. Comment est-ce qu'on fait pour restituer toutes ces échelles d'espace, petit, grand, vu d'en haut, vu de l'intérieur ?
Eh bien, on se documente beaucoup au début, parce qu'il en faut beaucoup. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir visiter un cargo. Donc, je me suis beaucoup documenté à travers, mon ami, justement, qui était capitaine de cargo. Il m'a envoyé de nombreuses photos et en fait, ça nous intéressait un petit peu aussi de, effectivement, ce que vous avez dit, c'est-à-dire le rapport d'échelle. Qui d'un homme à un cargo, l'homme est tellement minuscule par rapport au bateau.
Ah oui.
Mais ce grand bateau perdu dans l'océan, c'est rien qu'un point. Et en fait, ce rapport d'échelle nous intéressait beaucoup et on trouvait ça très plastiquement assez fort. Et il y avait là, en tous les cas pour moi, illustrateur, la possibilité de faire des images que moi je rêvais assez belles. Voilà.
Et les cargos, ça vous fait rêver?
Et les cargos, alors moi tous les ces engins qui sont à la fois qui sont, il y a un sentiment de répulsion et d'attirance.
Ah.
Parce que je trouvais évidemment
de répulsion aussi.
Oui aussi, parce que on sait tous ce que ces cargos polluent beaucoup, etc. Et en même temps, je trouve que c'est des bateaux. Enfin moi, dès que je suis à côté, en tous les cas, je trouve ça complètement fascinant. Je trouve ça démesuré, en même temps très beau.
Oui, c'est vrai que c'est immense.
Il y a un aspect métallique coloré avec ses containers un peu partout. Et en fait, cette dualité entre le vraiment, pour moi, immensément beau et en même temps un peu crasseux, un peu. On a aussi les odeurs de fuel sûrement, de ce que moi j'imaginais, la graisse, le métal rouillé, etc. Mm-hmm. Qui font que l'univers, pour moi, est fascinant, quoi. Et à dessiner, ça a été un vrai plaisir.
Et je le dis pour les auditeurs, c'est vrai qu'on s'y sent, hein, dans le cargo, parce que on le voit en petit, du dessus, ouais. De l'intérieur, on le voit quand on monte sur l'échelle de coupé, on voit, c'est à la fois réaliste, et en même temps, c'est un peu magique, parce que vous avez choisi beaucoup de couleurs. À un moment, on voit un magnifique damier de couleurs à plusieurs reprises. Ça vous a inspiré, les couleurs des
Ah, mais oui, moi, j'ai vu des photos de cargo avec une multitude de containers différents avec des couleurs absolument incroyables. Et ouais, moi je trouve ça beau. En plus, souvent avec si on a des prises de vue ou des prises de vue, j'ai des photos, mais voilà.
Oui.
Si on a des illustrations qui sont faites de nuit, on peut encore en plus avoir des ambiances lumineuses qui peuvent être vraiment intéressantes. Et voilà, et ce goéland aussi qui est là et qui donne un côté bizarrement très humain à l'ensemble. Oui. Et puis ça nous permet d'avoir des points de vue différents. On a le bateau qu'on voit de très haut quand on est à côté du goéland, comme si on volait à côté
très,
de lui.
C'est une très belle image d'ailleurs. Oui.
Et au milieu des nuages, enfin voilà. On est constamment dans des rapports de taille et de dimension qui sont complètement différents.
Alors moi j'invite les auditeurs à lire Cargo parce que vous allez voir, ça dépayse. On est effectivement tantôt en l'air, tantôt dans un endroit très confiné. Donc il faut tester l'expérience. Mais alors en attendant de faire cette expérience extrême. Revenons sur la terre ferme, puisque vous avez donc publié également au Père Fouettard Carnivore, une histoire assez surprenante aussi, avec beaucoup de suspense et une chute, en ce qui concerne, enfin moi en ce qui me concerne, inattendue, je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc pourquoi avoir choisi ce thème et ce sujet des insectes et de bien d'autres choses encore?
Alors, c'est né de plusieurs choses, mais avec Jérôme, on réfléchissait depuis longtemps à faire un album autour des insectes, parce qu'on a une fascination sur ce petit monde-là. En fait, ça paraît très commun, c'est tout autour de nous, mais en fait, c'est très exotique quand on les regarde de près. Il y a des formes assez dingues, des antennes, des carapaces, des choses assez surprenantes, et aussi dans les couleurs, dans les matières, etc. Et donc Jérôme avait très envie de dessiner des insectes de façon très naturaliste, on peut dire.
Oui, c'est vrai que les dessins sont très naturalistes. Hein,
ouais. Et donc on avait envie de parler de ça, mais on cherchait un moyen assez original. On voulait pas faire que du documentaire simple. Et donc on a trouvé cette histoire. Donc c'est vraiment, en fait, c'est une enquête policière. C'est un grillon un jour qui se rend compte que ses amis autour de lui, ses amis insectes, disparaissent un par un. Et il veut comprendre pourquoi. Il se demande s'il y a un monstre qui les mange ou qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi ils disparaissent tous un par un. Et donc il va voir les derniers survivants, leur poser des questions et petit à petit il va avoir des indices et il va comprendre. Qu'est-ce qui les mange tous?
Le grillon mène l'enquête.
Voilà, le grillon mène l'enquête.
Et la solution est surprenante.
Ouais.
On l'espère.
Et on voulait qu'il y ait une ambiance vraiment mystérieuse, de suspense, d'attente, que ça soit assez prenant. Et moi, j'avais eu envie depuis un moment de faire un texte en rime. Donc, tout le texte est en rime et en quatrain.
Et c'est voilà, ça, c'est un sacré défi quand même.
Il y a un rythme assez singulier. Ouais. Et ça nous a permis vraiment de créer un album qui soit à la rencontre entre une fiction et un documentaire. Parce qu'on est pris. J'espère, je pense que les lecteurs sont pris dans l'histoire, ils ont envie de savoir la fin, ils sont tenus en haleine et en même temps ils découvrent des insectes qui peut-être connaissent mais ne savent pas forcément à quoi ils ressemblent.
Ils ne savent pas forcément nommer aussi parce qu'en fait là on reconnaît tous les insectes.
Voilà, tout à fait. Quand on parle d'un lucane, d'un ténébrion, d'un doryphore. De sauterelles, d'une montre religieuse,
oui, c'est des insectes assez communs qu'on a choisi,
mais ils ne savent pas forcément à quoi ça ressemble.
Bah, disons que commun sans lettres, finalement.
Ouais. Oui, c'est ça l'exotisme des insectes. En fait.
Voilà. Et du coup, avec ce livre, ils peuvent reconnaître, et puis dans les pages de garde, si les auditeurs voient ce livre, ils verront qu'on a mis les noms à côté de chaque dessin, donc il y a quand même un petit côté apprentissage pédagogique. Et je reviens à ça parce qu'en fait, nous, on avait aussi envie un peu d'alerter sur la disparition des insectes. On s'est dit que si on mettait en lumière ces petits animaux, ça permettait aussi d'expliquer aux lecteurs que dans la vraie vie, les insectes disparaissent énormément, que malheureusement, les scientifiques prévoient leur disparition totale d'ici 100 ans sur Terre, ce qui est assez dramatique, ça pose énormément de problèmes, pour notamment la plante, la pollinisation, etc. Mais voilà, on avait envie aussi de parler de ça, parce que l'écologie, l'environnement, c'est un thème qui nous touche.
Oui, puis le premier pas pour les protéger, c'est de les connaître. Et peut-être de les aimer après, hein, mais déjà de les connaître, on s'est dit, ce serait déjà pas mal. Et nous, on trouve ça immensément exotique, hein, comme on l'a dit, et on les connaît si peu, alors qu'ils sont juste là à nos pieds.
D'ailleurs, il y a une araignée. Alors, l'araignée n'est pas un insecte, mais enfin, il y a juste une araignée au-dessus de nous.
Exactement.
Qui écoute et qui trouve. Elle est tout à fait d'accord.
Mais elle me semble d'accord.
Voilà.
Alors, bah, écoutez, je vous remercie. Mais je voudrais peut-être qu'on se quitte en se disant qu'il y a un après.
Ah ouais.
Alors, quel est votre prochain album? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, on en a un qui sort tout bientôt, début octobre, qui s'appelle Bertie et Brindy, parce qu'on avait envie de proposer quelque chose pour les plus petits. Et donc, c'est un livre à double entrée, c'est-à-dire qu'il peut se lire dans les deux sens. Donc, il y a un côté, c'est Bertie et Brindy.
On est toujours dans le bon sens.
Brindy et Bertie.
Toujours, important.
Donc, c'est toujours dans le bon sens.
Oui. Ça, c'est la phrase importante à retenir. Voilà, oui.
Et donc, cette petite fille qui s'appelle Bertie, elle cherche son chat, qui est perdu dans la ville, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'albums dans des contextes urbains pour les tout-petits. Alors qu'il y a quand même un enfant sur deux dans le monde qui vit dans une grande ville.
Donc, ça, c'est sûr.
Donc voilà, et dans l'autre sens, en fait, c'est le chat qui cherche la petite fille.
Ah,
mais
oui.
Mais oui, qui est aussi très attaché à elle, mais voilà. Qui lui va la chercher dans des endroits un peu surprenants, sur les toits, dans les égouts.
C'est un chat.
Voilà,
il cherche comme chercherait un chat. Ah oui, voilà. Donc ça doit être à la fois amusant et un peu poétique, voilà. Aussi, j'imagine.
Et, tout à fait. Et puis c'est aussi un jeu de chercher trouve, parce que dans chaque image, il y a l'autre personnage qui est caché.
Ah, oh, ben dis donc, il y a plusieurs strates. Hein.
Voilà, tout à fait.
Oui, on aime bien les différents niveaux de lecture, et c'est vrai que. Autant que faire se peut, on essaye que les adultes s'amusent aussi en lisant. Il n'y a pas de raison.
Ah bah, au contraire. Eh bien, donc, l'ouvrage sera disponible chez Jean de la Lune à partir du 4 octobre. Eh bien, on est dans les starting blocks et on a très envie de le lire. Merci beaucoup de
Merci
nous
beaucoup
avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
Et à bientôt dans vos albums.
Voilà, donc je pense que ça vous aura un peu mis l'eau à la bouche. Quelques mots sur l'actualité. Donc à l'espace culturel Leclerc, le 28 septembre, Laurent Rivière viendra dédicacer « Dans les bras morts » aux éditions du Toucan, donc un thriller qui se passe près de chez vous et qui va vous scotcher au fauteuil. Alors attention, il faut aimer le noir. Le 5 octobre, Sophie Perret viendra dédicacer Le long chemin de Safietou Dieye, une autobiographie poignante qui part du Sénégal pour arriver à la Nièvre. Et le 19 octobre, Martine Carillon-Couvreur viendra présenter La Nationale 7, une publication de la Camosine sur la fameuse Nationale 7 qui a fait couler beaucoup d'encre en mots et en dessins. Donc à
et
suivre.
En musique.
Et en musique, bien sûr. aussi près, donc Éline n'est pas là pour nous en parler, quelques mots, Nicolas Puzna qui viendra dédicacer une bande dessinée, alors assez extraordinaire, un policier thriller qui paraîtra le 2 octobre. Il viendra le 5 octobre de 10h à midi. Et donc à ne pas manquer, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le 15 octobre, là, le Cyprès fait vraiment les choses en grand. Puisque, et oui, une fois n'est pas coutume, les libraires montent sur scène aux côtés du talentueux Olivier Broda, du Théâtre du Temps Pluriel, et ben pour vous lire les textes qui les auront le plus marqués. Donc c'est quand même, c'est une forme de coup de cœur, mais les coups de cœur au théâtre. Mardi 15 octobre, surtout à ne pas manquer. Et enfin, un petit mot pour vous rappeler que le mois d'octobre, eh bien, c'est aussi le mois de l'imaginaire dans toute la France. Donc, vous pouvez guetter les animations littéraires sur ce sujet. Il y en a partout et bien sûr aussi dans la Nièvre. Mais tout de suite, nous écoutons le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Vincent. Alors, celui-là est tout à fait différent, c'est plutôt pour les enfants, enfin pour les grands aussi, mm-hmm. En fait.
Oui, oui, pour tout le monde, oui.
Oui.
Steve Waring, qui va nous chanter « Le matou revient ».
On écoute le matou qui revient, effectivement, on a beau essayer de le faire partir, il revient toujours.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là ». Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais le matou revient, le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate. La ville est affolée car une pluie de petits morceaux d'hommes commence à tomber. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis parmentier, de la chair à pâté du fast-food hamburger. Le matou hurle et disparaît dans la machine. De la viande poilue est affichée sur la vitrine. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Cette fois-ci, on expédie le chat au Cap Kennedy. C'est dans une fusée à 3 étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie car il n'a plus de soucis. Et puis le lendemain matin, on l'appelle de Miami.
Hello, Farmer Thompson. We got your cat here. Yes, we don't know how he got back down, but he's definitely here. Would you mind coming and picking him up, please?
And the cat came back the very next day. The cat came back. He wouldn't stay away. Le matou revient le jour suivant. Le matou revient. Il est toujours
c'était Le Matou revient de Steve Waring. Alors moi, ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs, j'avoue. Mais alors pourquoi Steve Waring ?
Oh, très simple. Parce que Steve Waring sera lui aussi présent au prochain festival Tandem.
Ça va plaire à beaucoup de gens.
À beaucoup de monde, oui, tout à fait. Oui, ça va réunir les familles, les enfants et leurs parents.
Non, mais il est extraordinaire, Steve Waring, sur scène. Oui. Hein. Avec 3 fois rien, il arrive à tenir tout le monde.
Oui, oui. Il sera accompagné de Thomas Bass, qui est un illustrateur jeunesse. Et ils seront présents sur la scène du théâtre municipal, ce qu'on appelle le petit théâtre, à Nevers.
Ouais, ça va être magnifique, surtout dans cet écrin-là. Alors Vincent, vous êtes donc le président du Festival Tandem. Vous êtes en pleine création du nouvel opus qui sera présenté du 13 au 15 février, je ne me trompe pas de date cette fois.
Ou peut-être le 16, non ?
Le 16 aussi ?
Oui, je crois, oui, jusqu'au 16.
C'est moi qui dis des bêtises. Alors quand je ne me trompe pas de jour, je me trompe de date. Oui, en plus j'ai le programme sous les yeux. Et effectivement, c'est jusqu'au 16.
Jusqu'au 16 février,
donc, 2020. Donc 2020, qu'on ne se trompe pas d'année. voilà, et donc cette année, il y a eu des chapitres qui nous ont mis l'eau à la bouche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Tandem et pourquoi en 2 ans ?
Alors, Tandem, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc que Tandem ? Un festival, un festival littéraire. Le principe est de donner à voir et à entendre par le public la facette vivante de la littérature sous toutes ses formes. Et aussi bien évidemment à l'attention des adultes que aussi à l'attention des jeunes lecteurs.
Donc pas seulement dans les livres en fait.
Et pas seulement dans les livres, parce que les illustrateurs, les auteurs jeunesse sont des auteurs, sont des écrivains.
Mais certes.
Aucune différence à faire entre eux. Le principe du Festival Tandem, il est le suivant, c'est d'inviter un auteur, donc comme j'ai dit, hein, quelle que soit sa discipline, auteur, illustrateur, adulte, jeunesse, de lui donner carte blanche avec quand même quelques consignes, et notamment la suivante, de venir accompagner d'un artiste de son choix, quelle que soit la discipline artistique de cet artiste. Et pour le festival, de créer un spectacle, une lecture, une rencontre, une performance, que sais-je encore, peu importe un peu la forme, où ils seront présents tous les deux. Donc, le tandem, mm-hmm. en tandem.
Le tandem.
Et ils vont ainsi donner à voir au public les liens, les nourritures qui existent entre la littérature et les autres formes d'art qui peuvent se pratiquer, et au sens le plus large possible. Il y a des liens évidents entre le texte et la musique, par exemple, mais ça peut être la danse, ça peut être l'illustration, la peinture, le graphisme, ça peut être la cuisine, ça peut être ce que vous voulez.
C'est un enrichissement
les
mutuel.
Arts, les arts sont très divers, oui, ouais, absolument, ouais, voilà. Donc voilà le principe de tandem.
Et tandem, c'est pour ça qu'il y en a un tous les deux ans?
Alors, s'il pouvait y en avoir un tous les trois mois, ce serait bien aussi. Hein, ça. Mais alors, pourquoi tous les deux ans et donc ce qu'on appelle un festival biennal? Alors là, c'est parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'équipe est restreinte, bénévole, mmh. Que c'est énormément de travail. Qu'on a par ailleurs une vie de famille, une vie professionnelle.
Ah bon?
Bah oui. Et pour soulager un peu le tout, on est passé en mode de biennale, mm-hmm. pour des raisons aussi financières, de sécurité financière. C'était nécessaire. Cela dit, tandem ne reste pas absent
le reste de la deuxième
reste,
année.
Voilà, c'est ça.
Puisque vous proposez des chapitres.
Puisque en 2019, par exemple, il n'y avait pas de festival, certes, mais il y avait des chapitres.
Et des très beaux chapitres.
Mais bien sûr.
Et il en reste encore un, d'ailleurs.
Il en reste encore un, oui. Le 27 novembre, à la maison.
Oui.
Dans la petite salle de la maison, anciennement maison de la culture. Un tandem, François Bon, Dominique Pifarelli, qui vont... Mm-hmm. Venir nous donner une prestation, donc qui va lier cette fois le texte, l'outil numérique et la musique du violoniste Dominique Pifarelli.
Ouh, ça s'annonce voilà. Très intéressant, en effet. Mm-hmm. Alors, comme nous mm-hmm. avons la chance d'avoir Arnaud Catherine toujours avec nous en ligne, est-ce que, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la programmation et en particulier sur le fil rouge, en fait, de la programmation du festival de février?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de fil rouge, parce que le fil rouge, c'est ce que vient d'expliquer Vincent, c'est-à-dire ce sont des duos. Il y a une constante quand même. On n'a pas de thématique hein, dans le festival. Mm-hmm. Vraiment, on s'autorise à accueillir toutes les propositions des artistes, puisque c'est vrai... Vincent me disait, ce sont des cartes blanches, il faut qu'on propose mmh. aux
liberté.
Auteurs. Mais voilà, liberté, liberté. En revanche, il y a une constante quand même dans ce festival, dans cette programmation, c'est la diversité. Ça paraît anodin comme ça, mais je trouve ça extrêmement important qu'on puisse, si j'évoque des auteurs qui sont venus les années précédentes, qu'on puisse aller d'une romancière très populaire comme Delphine de Vigan jusqu'à un poète avant-gardiste comme Espitalier. Voilà. Donc on essaye de respecter ce vœu de diversité. Et donc l'année prochaine, pour le prochain tandem, il y aura ça, c'est-à-dire il y aura des écrivains dit confirmé, je ne sais pas quel qualificatif gracieux on pourrait trouver, mais enfin vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui, tout à fait.
Des auteurs comme Lydie Salvert, qui a reçu le prix Goncourt, qui viendra avec son compagnon Bernard Wallet, qui est un ancien, je dis ancien parce qu'il est à la retraite, mais un ancien très très grand éditeur, fondateur des mm-hmm. éditions Verticales,
oui,
et qui par ailleurs
fait.
A écrit un livre
excellente
magnifique
édition.
Sur Beyrouth en guerre, paysage avec palmiers. Voilà, c'est la première fois qu'ils se retrouveront sur scène tous les deux d'ailleurs. Donc voilà, une romancière
une
très populaire comme Lydie Salvert ou quelqu'un qu'on a écouté qui est Philippe Catherine, moi mm-hmm. que je considère comme un, évidemment le chanteur que l'on sait, mais comme aussi un très grand poète. Donc il va venir avec oui. son complice Philippe Evenot pour faire une conférence spectacle, on va dire, c'est comme ça qu'il appelle ça, autour de ces deux petits livres hilarant et poétique qu'il avait sorti chez Helium, Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l'amour. Donc voilà, on aura ces auteurs, ces personnalités qu'on aime, qu'on admire et qu'on aime à retrouver, et il y aura des découvertes et des gens que l'on connaît moins, et que nous aimerions que le public...
Qui gagne à être connu.
Voilà. Julia Deck, voilà, un de mes coups de cœur de la rentrée. Il y aura aussi Jean Materne, auteur chez Sabine Vespizer, mm-hmm. et par ailleurs éditeur de littérature étrangère, qui viendra avec un pianiste qui vient spécialement pour nous d'Israël, Michael Sidi Levy.
Ah bah dis donc.
Voilà, on aura un jeune auteur, Charlie Delvart, qui a écrit chez Flammarion un livre absolument hilarant qui s'appelle Data Biographie. Il a décidé de mettre toute sa vie en chiffres. Donc c'est une sorte d'autobiographie via des graphiques. Et ça donne un résultat qui est pas du tout laborieux ni abscon, mais au contraire super drôle et qui nous renvoie à nous-mêmes au fond.
Oui.
Donc il va venir rendre compte de ce projet complètement fou et inédit avec un comédien qu'on adore qui est Emmanuel Noblet.
Mm-hmm.
Vous savez qu'il avait eu le Molière du meilleur spectacle
oui.
seul en scène pour son adaptation de Réparer les vivants de
oui.
Maëlys de
Kerangal. Qui était effectivement un sacré tour de force, oui.
Donc, vous voyez, une diversité, j'y tiens beaucoup, entre des auteurs que l'on connaît et que l'on aime à retrouver et des découvertes à venir.
Et je crois qu'il y aura encore une autre découverte, puisque c'est un scoop. J'apprends à l'instant que le festival va accueillir Marguerite Duras.
oui, on se refuse rien.
Oui,
Marguerite Duras revient à Nevers.
Voilà. Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu réinviter Marguerite Duras?
Bon, vous savez, faire la programmation d'un festival littéraire, c'est évidemment penser au public, mais c'est aussi penser à se faire plaisir à soi. Donc,
oui.
j'ai proposé à l'équipe de Tandem de faire deux événements autour de cette grande dame, Marguerite Duras, que moi j'adule. Donc on réinvite les grands entretiens voilà qu'on avait déjà reçus. C'est une forme extrêmement originale. Ce sont trois comédiens qui s'emparent de grandes interviews, de grands auteurs, et qui les jouent. Et c'est parfaitement subtil, drôle, enrichissant.
Ouais,
et donc
savoureux,
ils vont consacrer un grand entretien à Marguerite Duras. Et par ailleurs, je tenais à essayer de faire réentendre une Duras qu'on connaît moins. On connaît la Duras du barrage contre le Pacifique, mm-hmm. de l'Olvestein, la Duras romanesque. Moi, il y a une Duras à laquelle je tiens énormément. C'est plutôt dans la deuxième partie de sa vie. C'est la Duras des textes courts, des fragments, pourquoi pas des recettes. Il y a un livre de recettes de Duras que je vous conseille, qui est génial.
Ah, j'avoue que je ne connaissais pas.
Donc j'aimerais faire entendre des extraits de ces livres magnifiques que sont La vie matérielle, Outside, etc. Et uh-huh. donc pour cela, j'ai proposé à deux comédiens, puisque Tandem oblige, deux comédiens superbes de venir prêter voix à Duras, que sont Johanna Price et Olivier Martineau. Et donc on va vous concocter une sorte de bouquet de textes courts qui, je l'espère, vous donneront cette impression que j'ai, moi, quand je lis ces textes du Duras, qui est que on a l'impression de reprendre une conversation avec une amie chère. Voilà. Mm-hmm. Une conversation à bâton rompu. On pourra s'imaginer presque dans une cuisine avec elle. Et elle vous parle de la vie comme elle va, aussi bien de l'omelette vietnamienne que qu'est-ce que c'est qu'une femme qui tient une maison et un homme qui passe à côté d'une prise qu'elle a réparée et qui s'en aperçoit pas.
Voilà.
Toutes sortes de choses comme ça.
C'est la Duras qu'on ne connaît pas, en effet.
Voilà, la vie telle qu'elle va et telle qu'elle la vivait, Marguerite Duras, et notamment dans ses maisons, que ce soit le château ou l'appartement des Roches Noires à Trouville. On sait que la question de l'abri et la maison, c'est très important chez elle. Donc voilà, j'aimerais faire entendre, par la voix de ces deux comédiens, une Duras un peu moins connue, mais qui vous paraîtra extraordinairement, j'espère, attachante et familière.
Ben oui, effectivement, ça s'annonce assez dépaysant pour ceux qui pensent connaître le paysage durassien. Alors, je me tourne vers vous, Vincent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur la programmation jeunesse? Parce qu'il y a une importante programmation jeunesse.
Oui, ça c'est depuis 2-3 ans maintenant, on a voulu, dans l'équipe de Tandem, donner une part aussi importante au jeune public, enfin les propositions à destination du jeune public, que celles que depuis l'origine on propose au public dit adulte. Alors pour ça, on rend hommage au travail considérable que réalise notre vice-présidente, qui est Laetitia Buchon-Dagé.
Qui n'a pas pu venir aujourd'hui.
Qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, qui travaille avec acharnement à la production et à la programmation du festival, comme Arnaud le fait. Et donc la programmation est en cours de construction. On peut citer quelques noms. Alors on en a déjà cité un, c'était Steve Waring. Mmh. Je crois que j'ai déjà cité celui qui l'accompagnerait sur scène, c'est-à-dire Thomas Basque, qui est un illustrateur. Je peux déjà citer avec certitude, je m'arrêterai là pour l'instant malheureusement, je peux citer également Alice Zénitaire. Alice Zénitaire est déjà venue à Tandem, si je me trompe pas, en 2017 ou 18, je ne sais plus.
C'était l'année où elle a eu le Goncourt, donc c'était en 17.
17, alors c'est ça.
Elle avait eu le Goncourt pour l'art de perdre en 2017.
D'accord. Et elle revient. Le concours de lycéens, oui, c'est vrai, ouais, voilà. Là, elle revient avec un roman, qu'on peut qualifier un roman pour ados, mais alors là, après tout, tout le monde peut le lire, évidemment, qui s'intitule Home Sweet Home. Et donc, c'est un grand plaisir de revoir à nouveau Alice Zénitaire parmi nous au Festival Tandem.
Alors, Vincent, je crois que vous êtes aussi comédien-lecteur.
Oui, alors ça m'arrive, oui. J'adore ça, de plus en plus.
Et oui. Donc, je crois que vous avez une petite pépite à nous faire partager pour nous donner un petit avant-goût.
Oui, en effet, vous m'aviez proposé, Claire, et je vous remercie, de venir avec un livre, un extrait. Et un autre auteur qui sera également présent au festival, c'est Lydie Salvert, et pour son texte qui s'appelle « Pas pleurer ».
Oui, un très, très beau texte.
Et je vous remercie de me donner l'occasion de livrer aux oreilles des auditeurs de Bac FM les quelques lignes. J'ai une page et demie. Allez.
Allez, c'est parti.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monseigneur l'évêque archevêque de Palma désigne au justicier, d'une main vénérable où lui l'anneau pastoral, la poitrine des mauvais bougres. C'est Georges Bernanos qui le dit, c'est un catholique fervent qui le dit. On est en Espagne, en 1936. La guerre civile est sur le point d'éclater et ma mère est une mauvaise pauvre. Une mauvaise pauvre est une pauvre qui ouvre sa gueule. Ma mère, le 18 juillet 1936, ouvre sa gueule pour la première fois de sa vie. Elle a 15 ans. Elle habite un village coupé du monde où, depuis des siècles, de gros propriétaires terriens maintiennent des familles comme la sienne dans la plus grande pauvreté. Au moment même, le fils de Georges Bernanos s'apprête à se battre dans les tranchées de Madrid sous l'uniforme bleu de la Falange. Durant quelques semaines, Bernanos pense que l'engagement de son fils auprès des nationaux est fondé et légitime. Il a les idées qu'on lui sait. Il a milité à l'Action française, il admire Drummond, il se déclare monarchiste, catholique, héritier des vieilles traditions françaises et plus proche en esprit de l'aristocratie ouvrière que de la bourgeoisie d'argent qu'il exècre. Présent en Espagne au moment du soulèvement des généraux contre la République, il ne mesure pas d'emblée l'ampleur du désastre. Mais très vite, il ne peut tordre l'évidence. Il voit les nationaux se livrer à une épuration systématique des suspects, tandis qu'entre deux meurtres, les dignitaires catholiques leur donnent l'absolution au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église espagnole est devenue la putain des militaires épurateurs. Le cœur soulevé de dégoût, Bernanos assiste impuissant à cette infâme connivence, puis... Dans un effort éprouvant de lucidité qui l'oblige à rompre avec ses sympathies anciennes, il se décide à écrire ce dont il est le témoin déchiré. Il est l'un des seuls dans son camp à avoir ce courage. Merci.
Le texte coup de poing, je l'avais déjà lu, mais là, c'est ça qui est toujours intéressant dans le.
Très fort.
Ouais, mais dans la lecture, c'est qu'on le redécouvre, en fait. À chaque fois, ça me fait cet effet-là. Et à chaque fois, j'en suis surprise. Je devrais commencer à m'habituer. Mais non. Donc. Merci beaucoup.
Merci à Lydie Salvert, surtout.
Oui, c'est sûr. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Arnaud.
Merci, Arnaud.
Je vous en prie.
pour avoir accepté cette interview alors que vous êtes très pris. Vous êtes actuellement aux correspondances de Manosque qui se déroulent donc du 25 au 29 septembre. Mais vous serez bientôt à Nevers puisque le prochain chapitre donc de Tandem, ce sera le 27 novembre avec François Bon et Dominique Pifarelli. Et je vous remercie aussi, Vincent, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, Claire.
Et j'invite tous les auditeurs à suivre l'actualité du Festival Tandem sur le site tandemnevers.fr. Et les Voix du Livre vous donnent donc rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.